Merci, Monsieur le Président. Merci aussi pour cette section 3 reformulée légèrement et qui nous semble également aller tout à fait dans la bonne direction, en étant tout à fait conscient de la difficulté de cette section qui est vraiment le cœur du sujet, puisqu'il s'agit dans cette section de prendre des engagements fermes et résolus sur la façon de réduire les souffrances humaines. Le chapeau nous convient, merci beaucoup. Le « we will » est très important, il faut le conserver en effet, puisque c'est un engagement ferme que nous allons prendre. Sur le reste de la section, je n'ai pas de difficulté sur, nous n'avons pas de difficulté sur le 3.2, 3.5 et 3.6. Trois paragraphes pour lesquels nous pensons qu'ils sont tout à fait acceptables et qui devraient être endossés tels quels. Sur les autres paragraphes, le 3.1 est un paragraphe important que nous soutenons et qui met en exergue la nécessité pour les États de mettre en œuvre des pratiques opérationnelles relatives à la protection des civils et des biens de caractère civil. Et comme cela est rappelé dans ce texte, de nombreux États ont d'ores et déjà adopté de telles pratiques. Aussi, il nous semble que le terme « review » devrait figurer après « where necessary » pour refléter cette idée que certains États ont déjà des pratiques et des politiques à cet égard. Sur le paragraphe 3.3, nous savons bien que ce paragraphe représente le cœur de notre déclaration, sans négliger bien entendu les autres aspects, les autres dimensions du texte. Hein, mais ce paragraphe est important, très important. Si nous voulons une déclaration qui permette réellement l'amélioration de la protection des civils et des biens de caractère civil, nous devons tous ensemble parvenir à une formulation qui reflète les obligations qui sont celles des États au titre du DIH, mais aussi, et j'insiste, tout contribuant à améliorer en tant que de besoin les pratiques sur le terrain. Notre objectif doit être de veiller à ce que les États prennent des mesures concrètes pour renforcer la protection des civils. Il s'agit effectivement d'adapter les moyens et méthodes de guerre employées pour parvenir à un emploi maîtrisé de la force et minimiser les pertes et les dommages civils, en particulier l'emploi d'armes explosives dans les zones où les civils sont présents en très grand nombre. Pour cela, il est impératif que les forces armées prennent les mesures adaptées pour éviter ces pertes et ces dommages et se conformer aux principes fondamentaux du DIH. Ces mesures peuvent, en effet, dans certaines circonstances, conduire à restreindre ou à s'abstenir de l'emploi d'une arme explosive, comme cela est précisé dans le paragraphe 3.3. Mais je voudrais souligner un point. Cette décision doit être prise sur la base d'une évaluation des effets de la frappe au regard de l'avantage militaire concret et direct attendu. Aussi, ma délégation pense que ce paragraphe convient, mais qu'il faudrait supprimer le membre de phrase « when the effect may be expected to extend beyond the military objective », parce que si nous maintenions ce paragraphe, nous ne tiendrons pas, ce membre de phrase, nous ne tiendrons pas compte de l'équilibre entre nécessité militaire et principe d'humanité. Voilà pour le 3.3. Sur le 3.4, et ce sera ma dernière remarque sur cette section, nous considérons qu'il est enfin important, il est en effet important de conduire un Battle Damage Assessment tel que proposé, ainsi que d'identifier des lessons learned ou des retours d'expérience, pour autant que ces deux processus ne correspondent pas toujours à la même temporalité. Pour cette raison, et pour refléter l'importance de ces deux dimensions pratiques, Nous souhaiterions ajouter un and avant identify lessons learned. Je répète, un and avant identify lessons learned. Voilà, désolé, j'étais un peu long. Nous vous transmettrons ces quelques propositions mineures par écrit. Merci beaucoup, monsieur.